Bienvenue sur l'émission Constellation, qui se propose d'explorer en votre compagnie les arcanes stellaires et diamantins où nous conduit la poésie de tout temps et de tout lieu. Après Jules Laforgue, après Supervielle, après Loutréamont, qui tous, on l'avait dit, étaient nés à Montevideo, on va faire un saut important dans le temps, puisque on va emprunter la machine à remonter le temps, puisqu'on va aller au XVIe siècle. Quoique La Belle Cordière, je veux parler de Louise Labbé, est écrit une œuvre relativement mince, d'un point de vue purement quantitatif, sa réputation sulfureuse, les calomnies dont son époque a terni sa personnalité, et par-dessus tout l'intensité de sa production poétique, lui ont valu le statut de poétesse majeure de la Renaissance française, et plus spécifiquement lyonnaise. Modestie en effet de l'œuvre, qui comprend pour l'essentiel une épître dédicatoire à son amie Clémence de Bourges, épître considérée comme un manifeste proto-féministe avant la lettre, un débat allégorique entre la folie et l'amour, trois longues élégies et 24 sonnets d'amour, sorte de canzoniere originale. Belle cordière parce que femme et fille de cordier lyonnais, elle perd sa mère très peu de temps après que cette dernière lui ait donné le jour, entre 1516 et 1523. On ne connaît pas la date exacte. Cette perte lui vaut d'être confiée aux sœurs du couvent de la Déserte à Lyon, et par là d'entrer en contact avec des humanistes particulièrement éclairés, comme par exemple Jean de Vauzelle, allié de la famille des Sèves et aumônier de la Déserte. On consacrera plus tard une émission toute particulière à Maurice Sèves, l'auteur de la Délie. De ce fait, une humble cordière, une humilité toute relative, puisque la profession de cordier confère à cette époque une indéniable et bourgeoise aisance matérielle, une humble cordière donc accède à un savoir, à des connaissances approfondies, tant des écrivains de l'Antiquité, Ovide, Platon, la poétesse grecque Sappho, redécouverte au XVIe siècle, que des écrivains plus contemporains comme Marcille Ficin ou Pontus de Thiars. Et cette belle cordière, quelquefois surnommée la nouvelle Sappho lyonnaise par Jean et Mathieu de Vauzelle, on a déjà cité le premier, n'a pas peu fait pour entretenir ragots et médisances et calomnies, à l'égal du reste de ce à quoi est aussi en but la poétesse italienne Gaspara Stampa. On peut alors se poser la question, les hommes de ce temps pouvaient-ils tolérer qu'une femme, c'est du moins ce que rapportent certaines traces biographiques, prenne part en habit masculin au siège ou au tournoi de Perpignan? Pouvaient-ils tolérer aussi en Italie comme en France que des femmes trouvent le ton juste, à la fois dans l'engagement féministe, le badinage mythologique et la grande poésie lyrique? On peut citer de nouveau Gaspara Stampa, mais aussi Vittoria Colonna ou Pernette du Guillet. Calvin lui-même n'intensifiera-t-il pas la calomnie en traitant Louise Labbé de « plebeia meretrix », ce qui signifie « vulgaire courtisane ». Aussi, limiterons-nous notre approche à quelques-uns des 24 sonnets de Louise Labbé, en commençant par lire le 18e, qui nous apparaît et célèbre et provoquant, à la condition toutefois, pour nous modernes, de donner au verbe « baiser » le sens qu'il y revêt, à savoir « donner un baiser ». Sens du reste ô combien onomastique, puisque Louise Labbé, éminente latiniste comme toutes les femmes et tous les humanistes de ce temps, rattachait son patronyme à la tradition du basium, le baiser donné par les lèvres à travers les mots latins labium, la lèvre, et au pluriel labia, les lèvres, pour créer une poésie labéenne du baiser. D'où aussi parmi les écrits de différents poètes à sa louange, celui d'Antoine Fumé, qui lui donne précisément, je veux dire à cette louange, qui lui donne précisément ce titre, De Aloise Labeae Osculis, ce qui signifie des baisers de Louise Labbé, en donnant au mot latin et à son diminutif os osculus, le sens de bouche et par là de baiser. Lisons alors, sans plus tarder, ce 18e sonnet parmi les 24 dont on a parlé. Baise-moi encore, rebaise-moi et baise. Donne-moi un de tes plus savoureux. Donne-moi un de tes plus amoureux. Je t'en rendrai 4, plus chaud que braise. Las, te plains-tu ? Ça, que ce mal j'apaise en t'en donnant 10 autres doucereux. Ainsi, mêlant nos baisers tant heureux, jouissons-nous l'un de l'autre à notre aise. Lors, double vie à chacun en suivra, chacun en soi et son ami vivra. Permets, amour, penser quelque folie. Toujours suis mal, vivant discrètement, et ne me puis donner contentement si hors de moi ne fait quelque saillie. On aura remarqué que le débat d'amour et de folie, qui est un texte en prose, n'est vraiment pas loin, notamment à travers le premier tercet du poème qu'on a lu. Et que cette thématique du basium, du baiser, est réécrite à la lumière du commentaire fait par le philosophe de la Renaissance, Marcille Ficin, commentaire que Marcille Ficin écrivit à propos du banquet de Platon. C'est dire l'importance de ce que l'on nomme à bon droit le platonisme des sonnets. Autrement dit, tout particulièrement, la théorie ficinienne de l'amour dont se font l'écho, par exemple, les tercets du 22e sonnet. Avant de le lire, rappelons que cette théorie ficinienne de l'amour est une théorie selon laquelle la puissante harmonie du cosmos ne peut exister que parce que l'amour est le principe universel qui gouverne l'univers. Lisons donc ce sonnet 22. Luisant soleil, que tu es bien heureux de voir toujours de ta mie la face, et toi, sa sœur, quand 10 millions embrassent, tant te repaient de miel amoureux. Mars voit Vénus, Mercure aventureux de ciel en ciel, de lieu en lieu se glace, et Jupiter remarque en maintes places ses premiers ans plus gais et chaleureux. Voilà du ciel la puissante harmonie qui les esprits divins ensemble lient. Mais s'ils avaient ce qu'ils aiment lointain, leur harmonie et ordre irrévocable se tourneraient en erreurs variables et, comme moi, travailleraient en vain. Il y a lieu de penser que la théorie néoplatonicienne n'est plus, chez Louise Labbé, qu'un horizon d'attente singulièrement déçu. En effet, bien loin de certains poètes de la Pléiade, Louise Labbé n'a aucun goût pour les roses fanées. Elle préfère s'identifier à Sémiramis, la reine guerrière, qui, terrassée par la passion, a perdu son instinct combatif et languit pitoyablement sur sa couche. parallèlement à du Bellay qui avait évolué du pétrarchisme à son poème à une dame qui marque au contraire une révolte contre les pétrarchistes, Louise Labbé, dont le premier sonnet des 24 est pourtant expressément rédigé en italien, Louise Labbé en vient à semer dans l'ordre irrévocable du cosmos un chaos plus conforme au désarroi intérieur de l'amante éconduite. Aussi le sonnet 18, que nous avons lu tout à l'heure, a-t-il réuni deux types d'inspirations radicalement opposées. D'une part, la tradition érotique du baiser et de l'étreinte amoureuse, surtout illustrée par la poésie néo-latine, on pense au poète de la Renaissance, au poète néerlandais Jean Segond, et aussi la théorie ficinienne de la double vie par l'amour partagé. En somme, une union charnelle dans les quatrains, une communion des sentiments dans les tercets. Au-delà de ces inspirations contrastées, les 24 sonnets proposent un canzoniere savamment organisé en plusieurs phases. Premièrement, un sonnet initial, on l'a dit, en italien, pour rendre un hommage express à Pétrarque. Deuxièmement, les conditions de l'innamoramento avec l'évocation de l'ami infidèle. Troisièmement, les troubles de la passion, les espoirs et les désespoirs successifs. Pour illustrer cette troisième phase, lisons alors le huitième sonnet. Je vis, je meurs, je me brûle et me noie. J'ai chaud extrême en endurant froidure. La vie m'est et trop molle et trop dure. J'ai grands ennuis entremêlés de joie. Tout à un coup, je ris et je larmoie. Et en plaisir, main griffe tourment j'endure. Mon bien s'en va et à jamais il dure. Tout en un coup, je sèche et je verdoie. Ainsi, amour inconstamment me mène, et quand je pense avoir plus de douleur, sans y penser, je me trouve hors de peine. Puis, quand je crois ma joie être certaine, et être au haut de mon désiré heure, il me remet en mon premier malheur. Quatrièmement, il y a en quelque sorte parmi ces 24 sonnets qui obéissent finalement à une composition rigoureuse, musicale et rigoureuse. Il y a un sonnet central, le 12e sonnet, que je vais lire à présent et qui constitue en quelque sorte les confidences de la poétesse à son luth, le luth devenant une sorte de substitut idéalisé de l'ami, le luth marquant d'une certaine façon le triomphe du chant sur le sentiment. Voici donc ce 12e sonnet. Luth, compagnon de ma calamité, de mes soupirs témoins irréprochables, de mes ennuis contrôleurs véritables, tu as souvent avec moi lamenté, et tant le pleur piteux t'a molesté, que, commençant quelques sons délectables, tu le rendais tout soudain lamentable, feignant le ton que plein avait chanté. Et si te veux, efforcer au contraire, tu te détends et si me contrainter, mais me voyant tendrement soupirer, donnant faveur à ma tant triste plainte, en mes ennuis me plaire suis contrainte, et d'un doux mal, douce fin espérée. Cinquièmement, cinquième phase, est marqué par l'accueil et le refus de l'imaginaire, de façon donc contrastée, et aussi il y a une certaine séduction par les mythes. Aussi pouvons-nous lire le 16e sonnet. Après qu'un temps la grêle et le tonnerre ont le haut mont de Caucase battu, le beau jour vient de lueurs revêtues. Quand Phébus a son cerne fait en terre et l'océan il regagne à grand air, sa sœur se montre avec son chef pointu. Quand quelque temps le Parthe a combattu, il prend la fuite et son arc il desserre. Un temps, t'es vu, et consolé, plaintif, et défiant de mon feu, peu hâtif. Mais maintenant que tu m'as embrasé, et suis au point auquel tu me voulais, tu as ta flamme en quelque eau arrosée, et es plus froid qu'être je ne saoulais. Enfin, lisons aussi, sixièmement, par rapport à la sixième phase, lisons le sonnet final, qui est une forme de justification auprès d'un lecteur qui aurait pu se montrer putatif. Voici donc le 24e et dernier sonnet. Ne reprenez, dame, si j'ai aimé, si j'ai senti mille torches ardentes, mille travaux, mille douleurs mordantes, si, en pleurant, j'ai mon temps consumé, las, que mon nom n'en soit par vous blâmé. Si j'ai failli, les peines sont présentes, n'aigrissez point leurs pointes violentes, mais estimez qu'amour, à point nommé, sans votre ardeur d'un Vulcain excusé, sans la beauté d'Adonis accusé, pourra, s'il veut, plus vous rendre amoureuse, en ayant moins que moi d'occasion et plus d'étranges et fortes passions. Et gardez-vous d'être plus malheureuse. Thank you. Ainsi, le débat entre l'amour et la folie ne pourra-t-il être clos ? Louise Labbé se veut Jupiter écrivain, à la fois juge et partie, au procès de l'écriture poétique. Le texte des œuvres nous condamne désormais à vivre dans l'incertitude du désir. Eros rejoint Agapé, cette vraie et entière amour qui ne cherche son profit, mais celui de la personne qu'il aime. Ficin n'écrivait-il pas « Iste in illo, ille in isto vivit » L'un vit dans l'autre et l'autre vit dans l'un. Maxime à laquelle Louise Labbé donne un sens littéral, physique et éminemment sensuel, faisant entrer dans les corps cette belle vision des âmes rêvée par le néoplatonisme. Vous avez entendu diverses compositions pour luth, des compositions de Johannes Hieronymus Kapsberger, qui a vécu à la fin du XVIe siècle, qui était un Vénitien d'origine allemande. Au luth, c'était Paul Odette qui interprétait les musiques de Kapsberger. Vous avez entendu également des compositions d'un compositeur proche d'une certaine manière de Louise Labbé, puisqu'il s'agit d'un compositeur lyonnais qui s'appelle le vieux Gautier, et ses musiques étaient interprétées par Hopkinson Smith. Et vous avez entendu également, toujours au luth, des musiques d'un compositeur de la première moitié du XVIe siècle, Pierre Attagnan, également interprété par le grand luthiste Hopkinson Smith. Cette émission hebdomadaire est diffusée en direct les mardis de 10h à 10h30 et rediffusée les vendredis de 13h30 à 14h. Vous pouvez aussi l'écouter, la réécouter en podcast, comme toutes les autres émissions des RLP.